Europe 1.
Écoutez le monde changer. 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, beau week-end. On a appris cette semaine que les données médicales d'un demi-million de Français ont été piratées sans que personne s'en aperçoive. Fabrice Eppelboin, spécialiste de la protection des données, va nous dire où est le problème. Marlène Schiappa réactive la lutte contre les sectes, mais cette fois elle élargit ça aux anti-vaccins ou aux complotistes anti-5G. Étienne Ollion est l'auteur d'une histoire de la lutte contre les sectes en France. Il va nous expliquer quel est le rapport. Et enfin, Nancy Houston sort un nouveau roman, un grand roman sur l'identité, la GPA, l'animalisme, le genre, le racisme, les inégalités, bref, un concentré de notre époque. Avec elle, on est certain de terminer cette émission en beauté. Le quotidien Libération a révélé cette semaine comment les données médicales d'un demi-million de nos concitoyens se sont retrouvées sur Internet avec leur nom, leur numéro de sécurité sociale, leur adresse, leur numéro de portable et leur maladie. Une trentaine de laboratoires français ont été piratés sans que personne s'en aperçoive. Alors Fabrice Eppelboin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes entrepreneur, conseil stratégique, vous enseignez les usages politiques des réseaux sociaux, la guerre informationnelle et la protection des données. Vous êtes l'auteur de chroniques de l'InfoWar. Rien de ce qui se passe sur le net ni sur le darknet ne vous est étranger. Est-ce que c'est très inquiétant pour la sécurité de nos données de santé, cette affaire ?
Non, pas particulièrement. Il s'agit juste d'un sous-traitant, un éditeur de logiciels qui vendait ses logiciels à des laboratoires et qui était très peu sécurisé, qui ne respectait absolument pas le béaba de la sécurisation. Les données typiquement n'étaient ni chiffrées ni anonymisées. Et à l'occasion d'un changement de logiciel, il y a eu cette faille qui a permis à des gens d'accéder à ces données. Ça n'a pas plus de portée que ça, même si ça aura certainement des conséquences très désagréables pour les gens qui se sont fait dérober leurs données.
Alors on dit que les données devait être vendu aux enchères sur le darknet, que les pirates ont dû se disputer, l'un d'entre eux, pour se venger, les amis gratuitement sur Internet, où elles ont commencé à circuler. Mais pourquoi vend-on nos données médicales aux enchères sur le darknet ? Dans quel but ?
Tout simplement parce que avec ce type de données, vous allez pouvoir mettre en œuvre toute une série d'arnaques, de rackets qui vont vous permettre de faire un bénéfice, tout simplement.
Mais nos données bancaires sont quand même mieux protégées, elles. On a l'impression que les données de santé, on n'y fait pas attention.
Oui, c'est clair. Les banques investissent beaucoup plus d'argent dans la cybersécurité que l'industrie médicale dans l'absolu. C'est un problème qui est lié aux restrictions budgétaires qui touchent beaucoup plus, ça ne vous a pas échappé, le secteur médical que le secteur bancaire.
Néanmoins, il y a eu un bug, paraît-il, avant-hier, dans une grande banque française. Tout à coup, on s'est retrouvé avec le compte en banque de son voisin. Est-ce que c'est vrai ?
Tout à fait. Avec une application mobile, tout d'un coup, vous aviez accès au compte d'épargne, au compte courant d'un parfait inconnu et vous pouviez naviguer dans ces comptes. Heureusement, pas faire de transfert, mais c'était un bug qui a touché une grande banque française pendant quelques heures avant qu'ils interrompent le service.
Mais on voit bien, puisqu'on n'a pas pu faire de transfert, on voit bien que le chiffrement, la cryptographie sont beaucoup plus élaborés.
Dans le secteur bancaire, sans aucun doute. Le chiffrement, la cryptographie, toutes les technologies qui permettent de sécuriser nos informations bancaires sont beaucoup plus présentes dans le secteur bancaire que dans le secteur médical, mais ça n'empêche que de temps en temps, il y a des ratés. Et là, on en a eu un merveilleux exemple avant-hier. Ça arrive, c'est quand même, il faut le reconnaître, beaucoup moins fréquent.
Comment expliquez-vous qu'on ne protège pas davantage nos données de santé ?
Pour une raison toute bête, la sécurité informatique, ça n'est pas quelque chose que vous voyez quand vous achetez un produit. Donc c'est typiquement quelque chose sur lequel vous allez rogner de façon à économiser un peu d'argent et rentrer dans un cadre budgétaire qui, encore une fois, dans le secteur médical est de plus en plus serré. Et donc on va reporter à plus tard. Et la sécurité informatique, quand on l'a fait après coup, est beaucoup plus compliquée à faire et beaucoup plus chère que si on en prend soin au moment de la conception d'une technologie.
Mais pourtant, on sait à quel point les Français tiennent à la confidentialité de leurs données de santé, pas seulement les Français d'ailleurs. Ce qu'ont fait les Israéliens pour obtenir des vaccins de Pfizer, c'est qu'ils ont accepté justement d'échanger leurs données de santé contre des vaccins. On n'est pas sûr que les Français et les Européens en général auraient accepté, par exemple.
Non, les Européens auraient probablement eu beaucoup plus de réticence que les Israéliens, mais en même temps, les Israéliens sont certainement beaucoup plus conscients de la valeur de ces données, et face à une situation de crise absolue, le gouvernement israélien, parce que ça n'a pas non plus fait l'objet d'un référendum, a jugé bon de proposer ces données de façon à avoir une offre que les laboratoires ne pouvaient pas refuser.
Alors nous, on n'est pas toujours conscient de la valeur de nos données. On en veut pour preuve l'affaire du Health Data Hub, ce projet de plateforme française de nos données de santé destiné à être utilisé pour la recherche et l'innovation. Le projet est très bien, tout le monde était d'accord, et puis tout à coup, il y a eu un gros problème. Est-ce que vous pouvez nous le raconter d'ailleurs ? Parce que ça a été une grosse polémique.
Alors on s'est aperçu que ce gigantesque projet qui consiste à rassembler toutes les données de santé des Français pour les confier à une intelligence artificielle qui serait en charge de prédire l'évolution de l'état de santé de chacun d'entre nous et donc potentiellement de passer d'une médecine curative à une médecine prédictive, et bien toutes ces données de santé et l'incroyable valeur qu'on allait pouvoir en tirer allaient être confiées à Microsoft alors qu'il y a tout un tas de technologies françaises ou européennes qui auraient très bien pu faire l'affaire. Et puis au fur et à mesure qu'on a commencé à creuser cette histoire, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas vraiment eu d'appel d'offres et que, et c'est là où on en est aujourd'hui, que finalement le projet de loi qui a donné naissance à ce Health Data Hub avait lui-même été plus ou moins orienté par Microsoft eux-mêmes. Donc ça a fait un énorme scandale, ça a fait l'objet d'une question lors d'une commission d'investigation au Sénat, le Conseil d'État s'en est mêlé, la CNIL a dénoncé une multitude de problèmes, notamment sur le lieu de traitement des données, leur chiffrement et le fait que Microsoft pouvait y avoir accès malgré leur dénégation. Et on est reparti dans une grande interrogation sur la souveraineté de la France vis-à-vis de ses données de santé, mais surtout de l'avenir de son système de santé publique.
Le problème, c'est que c'était Microsoft, au fond.
Le problème, c'est que c'était une société étrangère et que fondamentalement, si on confie cette capacité à inventer l'avenir de la santé publique française à une société étrangère, on perd le contrôle de notre santé publique. On ne sera plus en mesure, nous, Français, demain, de pouvoir décider de façon souveraine de la façon dont on veut orienter notre système de santé publique. Et puis, on aura des effets retours qui pourraient être extrêmement désagréables. Typiquement, si je suis capable de prédire l'évolution de votre état de santé, eh ben, je vais, en fonction de si je sais ou que vous allez avoir une longue vie paisible, vous proposer une assurance santé très peu chère. Alors que je vais pouvoir, votre frère à qui j'aurais prédit un cancer dans les années qui viennent, lui, je ne lui vendrai absolument aucune assurance santé. Donc on pourrait tout à fait détruire à l'avenir, avec ce genre de technologie, un concept fondamental de la santé publique en France, qui est la solidarité. Ça pourrait disparaître d'un trait du fait de la perte de souveraineté qu'on aurait sur les données de santé des Français.
On fait une pause, Fabrice Eppelboin, on se retrouve juste après.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Nous sommes toujours avec Fabrice Eppelboin. Je rappelle que Libération a révélé cette semaine que les données médicales d'un demi-million de Français se sont retrouvées sur Internet avec leur nom, leur numéro de sécurité sociale, leur adresse, le numéro de portable et absolument tout ce qui concerne leur santé. On était en train de parler du Health Data Hub qui risquait d'être confié à Microsoft et ça avait déchaîné une polémique. Il faut préciser qu'aux États-Unis, il y a le Cloud Act qui autorise les autorités américaines à obliger les entreprises américaines à fournir les données stockées sur leurs serveurs, y compris quand ils sont basés à l'étranger. Ça aurait concerné toutes les données médicales des Français ?
Alors, ça, c'est la dimension juridique. Effectivement, le Cloud Act permet à l'État américain, sous certaines conditions,
oui, en d'accéder cas de mandat ou d'assignation en justice, évidemment.
Voilà. Maintenant, la réalité, c'est que la NSA passe outre toute problématique juridique et qu'on sait très bien que si on confie nos données à un acteur, typiquement Microsoft, mais les GAFAM en général, la NSA y a plus ou moins accès. Donc, on rentre dans une inconnue totale et on rentre dans une perte de contrôle absolu sur l'avenir et ce qui sera fait des données de santé des Français. Ce qui est, en tant que tel, quelque chose de particulièrement terrifiant. Surtout quand on voit le système de santé publique américain.
Alors, quand on parle du Health Data Hub, c'est un problème de souveraineté nationale. Ce n'est pas un problème de piratage, on l'a compris. Mais vous faites partie de ceux qui alertent en permanence sur Facebook. Depuis le scandale Cambridge Analytica, on a vu qu'on peut déduire de votre profil Facebook votre orientation politique. On sait aussi qu'on peut en déduire votre orientation sexuelle. Est-ce qu'on peut en déduire vos données de santé ?
On peut en déduire une myriade de choses. Et fondamentalement, les données qu'on confie visite plus ou moins consciemment à Facebook sont tout aussi intimes que notre dossier médical. On peut en déduire une inclinaison psychologique, c'est aussi ce qui a fait le sel de l'affaire Cambridge Analytica, c'est que les argumentaires qui étaient envoyés à tout un chacun étaient pensés psychologiquement pour chacun d'entre nous. Et c'était remarquablement efficace. Et Facebook, même si on en est beaucoup moins conscient, aspire notre intimité à chacun d'entre nous, tout autant que les données médicales de chacun d'entre nous. C'est quelque chose sur lequel les Français sont beaucoup moins sensibles parce que Facebook est un outil d'entertainment, mais fondamentalement, c'est tout aussi inquiétant que le fait de confier nos données de santé à un acteur étranger.
Mais c'est véritablement fiable, parce qu'on surévalue beaucoup les algorithmes, ils sont souvent moins intelligents qu'on ne le dit. Sur les sites de commerce en ligne, il arrive qu'ils essayent de vous revendre ce que vous avez déjà acheté, par exemple, ou sur Netflix, l'algorithme de recommandation. Quand vous arrêtez un film au bout de 10 minutes, il se dépêche de vous en recommander un autre. De la même veine, il ne comprend pas que si vous l'avez arrêté, c'est que vous ne l'aimez pas. Il pense que vous l'aimez quand même.
Non, ce n'est pas d'une fiabilité absolue. On n'est pas face à des Nostradamus, même si ça s'améliore d'année en année. Malgré tout, sur la masse, oui, c'est efficace. Il suffit de voir les résultats de la publicité en ligne par rapport aux résultats d'autres types de publicité. Elle est infiniment plus efficace parce qu'elle va être capable d'apprendre à comprendre qui vous êtes de façon à vous suggérer des produits qui sont de plus en plus adaptés à vos envies ou vos besoins.
Fabrice Epelboin, il y a une autre affaire de piratage dont on a très peu entendu parler en France, c'est SolarWinds, une cyberattaque qualifiée d'historique, découverte au mois de décembre aux États-Unis. Où en est l'enquête ? Des milliers d'entreprises auraient été touchées à travers le monde. Est-ce que vous en savez plus ?
L'enquête est en cours, elle est loin, très loin d'être terminée. SolarWinds, c'est une technologie qui a été piratée de façon particulièrement sophistiquée. On parle du plus gros piratage de la décennie. C'est assez impressionnant. Et puis à travers ce premier piratage, les hackers ont réussi à rebondir sur tout un tas d'autres technologies, à pénétrer une myriade d'entreprises, à prendre le contrôle ou en tout cas prendre connaissance de l'intimité de technologies comme celle de Microsoft. Ils ont eu accès au code source de Microsoft, ce qui est vraiment le Saint Graal chez Microsoft. Et puis ils ont rebondi un peu partout. On estime qu'il y a des centaines, si ce n'est des milliers de très grosses entreprises américaines qui ont été touchées, y compris des agences d'État, et il y a fort à parier qu'il en est exactement de même en France et en Europe en général.
Comment vous expliquez qu'on n'en parle pas davantage ?
C'est un mystère. L'essentiel des informations est plutôt à aller chercher dans la presse anglo-saxonne. En France, on a eu Numérama qui a fait un vrai travail de documentation de l'enquête et qui a déjà publié 6 ou 7 articles. Mais le reste des articles qui ont été publiés sur SolarWinds sont soit d'une qualité très médiocre, soit carrément induits en erreur, ce qui est extrêmement étrange.
Mais il faut dire que c'est souvent assez compliqué à comprendre, c'est plutôt anxiogène. Ça pourrait être la raison pour laquelle on ne consacre pas à ce genre d'affaires toute la place qu'elle mériterait ?
C'est sûr qu'elle est beaucoup plus complexe à comprendre que le simple piratage de données de santé qui est lié à un logiciel qui était clairement mal dimensionné d'un point de vue cybersécurité. Mais il y a quand même derrière tout un tas de ressorts qui sont passionnants pour la presse. On a vraisemblablement des Russes qui ont piraté des agences de renseignement américaines. On a des grandes sociétés qui ont été affectées. On a Microsoft, là encore, qui parle d'un potentiel 11 septembre du cyber. On a une myriade de hackers qui sont à la recherche de la moindre information et qui lancent des hypothèses toutes plus folles les unes que les autres. Et pourtant, il n'y a personne dans les médias français pour s'intéresser sérieusement à cette affaire, en dehors bien sûr des médias spécialisés. Je parle évidemment des médias grand public. Personne ne regarde de près cette affaire.
C'est l'affaire SolarWinds, vous en entendrez peut-être de nouveau parler. Dernier mot pour ces 500 000 Français dont les données de santé se baladent aujourd'hui sur Internet, vous leur conseillez quoi ?
Je leur conseille de prendre garde à toute forme de contact qui va être fait à l'avenir et qui pourrait utiliser leurs données de santé pour une arnaque ou une autre, et de rester au courant de ce qui se passe autour de cette affaire, parce qu'il y aura certainement des rebondissements.
On risque de leur donner rendez-vous, de leur demander de l'argent, tout en montrant qu'on a déjà leur numéro de sécurité sociale, de faire comme si on était un laboratoire, au fond.
Par exemple, mais on peut faire confiance à l'imagination des hackers qui, dans ce domaine, sont vraiment très très forts pour imaginer tout un tas d'arnaques visant à récupérer de l'argent, parce que la plupart d'entre eux ont acquis ces données. Et le but du jeu, là encore, c'est de faire des profits.
Merci Fabrice Epelboin. On a rendez-vous maintenant avec Étienne Ollion. Il est l'auteur d'une histoire de la lutte contre les sectes en France. Marlène Schiappa vient de réactiver la lutte contre les sectes. Marlène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté, remet en branle la lutte contre les sectes qui était tombée en désuétude. Elle vient de nommer une magistrate à la tête de la Miviludes, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires que l'on croyait disparues, et s'est fait remettre un état des lieux des nouvelles tendances sectaires qu'elle a commenté dans une interview dans l'Obs cette semaine. Alors Étienne Ollion, vous êtes sociologue, vous êtes l'auteur de Raison d'État, une histoire de la lutte contre les sectes en France. C'est paru en 2017 à la Découverte. Il faut bien comprendre d'abord que la lutte contre les sectes, c'est une spécificité française.
Oui, tout à fait. Les sectes, ce n'est pas du tout un phénomène particulièrement français. Tous les groupes qu'on a qualifiés ainsi, même si eux s'en défendent, existent dans tout un tas de pays. Depuis les années 1960 aux États-Unis, les années 1970 en Europe, on a vu l'efflorescence de toute une série de mouvements qui vont donc être qualifiés de sectes. Donc ça, tous les pays ont eu à les connaître finalement. Par contre, ce qui est très spécifique avec la France, c'est qu'à partir des années 1990, une véritable politique publique massive va être menée en direction de ces groupes. C'est en 1996 la création d'un observatoire interministériel qui va devenir une mission interministérielle, qui va devenir la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les sectes, donc qui au plus haut de l'État place le contrôle de ces groupes dans le giron de l'État. À côté de ça, des cellules de vigilance sont installées dans chacune des préfectures, on fait des formations chez les avocats, chez les magistrats, dans les écoles, et on a toute une série d'associations qui sont plus ou moins, selon les années, financées par les pouvoirs publics. Et ça, c'est quelque chose qui est typiquement français.
Mais alors, ce qui nous a valu quelques dommages, on a été condamné par la Cour européenne des droits de l'homme, on a été critiqué par l'ONU pour restriction à la liberté religieuse. Il y a même eu une petite menace de rupture diplomatique en 1999 entre Madeleine Albright et Hubert Védrine. C'était, vous l'aviez révélé dans votre livre.
Oui, c'est ce qu'on voit quand on fait les archives de l'État français, c'est qu'on trouve ce courrier, en fait, que Madeleine Albright, la secrétaire d'État, donc la ministre des Affaires étrangères états-unienne, envoie à Hubert Védrine, et on a la copie de ce que Hubert Védrine renvoie en 1999 à Madeleine Albright en disant, écoutez, ma chère Madeleine, en toute amitié, on arrête d'en parler parce que sinon, on risque de se fâcher. Nous n'avons pas du tout les mêmes positions sur ce sujet. Donc, une mini-rupture diplomatique en germe à ce moment-là.
Mais au fond, c'est vrai que cette lutte contre les sectes, elle se fait au mépris de la laïcité qui garantit normalement la neutralité de l'État, la tolérance religieuse. L'État ne doit pas se mêler des croyances des citoyens. Or, il le fait. Au départ, c'était carrément la lutte contre les sectes. Après, on a changé de nom. On a dit la lutte contre les dérives sectaires. Enfin, l'esprit reste le même.
Bon, alors ça, c'est une question qui est évidemment extrêmement disputée, parce que si vous allez écouter les personnes qui luttent contre les sectes, ils sont très attentifs à dire, dès le début, qu'ils ne luttent pas contre des croyances, en fait. La manière dont la lutte contre les sectes a été menée, c'était de dire, d'une certaine manière, on ne lutte pas contre des croyances, on lutte contre des phénomènes d'emprise, de manipulation mentale. Le terme qui est importé à l'époque, c'est des États-Unis, c'est manipulation mentale, pour dire ce qui se passe dans ces groupes qu'on appelle des sectes, c'est un phénomène de suggestion psychologique. On va mettre les gens sous contrainte, sous influence. Et ça va, pendant plusieurs années, s'appliquer à des groupes qui, eux, se revendiquent religieux. Les Témoins de Jéhovah, la Scientologie, la Soka Gakkai. Et donc, pendant des années, on va avoir des groupes qui disent qu'ils sont des religions discriminées. Et de l'autre côté, on va avoir l'État qui dit, et les associations, qui affirment que ces groupes ne sont pas des religions, surtout pas, mais que ce sont des groupes où a lieu une manipulation mentale. Alors ça, c'est ce qu'on voit dans les premières années. Et au fur et à mesure que se développe cette lutte contre les sectes, et le rapport que vous mentionnez là en est un bon exemple, on va avoir une espèce d'autonomisation entre, d'un côté, cette question religieuse et, de l'autre côté, les territoires sur lesquels la lutte contre les sectes va s'appliquer. Puisque si on regarde le rapport actuel, qu'est-ce qu'on voit ? On voit certes qu'il reste quelques groupes qui se revendiquent de la religion. Il y a bien sûr les Témoins de Jéhovah. Les Témoins de Jéhovah sont là depuis une vingtaine d'années à peu près. C'est aussi un très gros groupe. Donc, si on enlève les Témoins de Jéhovah, la question de la lutte contre les sectes devient peut-être un objet plus petit.
Vous voulez dire que les 140 000 personnes qui seraient touchées par les dérives sectaires, dont 90 000 enfants, le chiffre est de Marlène Schiappa, c'est les Témoins de Jéhovah ?
Moi, je n'ai pas le décompte qui a été fait. Les Témoins de Jéhovah, c'est plus que ça. À l'heure actuelle, c'est plus de 200 000 personnes. Donc, je ne sais pas comment le chiffre est fait, mais il est certain, par exemple, qu'en 1995, quand est faite la première liste dans le rapport de l'Assemblée nationale sur le sujet, les témoins de Jéhovah sont le 173e groupe. Il y avait 172 groupes plus un, et en rajoutant les témoins de Jéhovah, le volume des adeptes de sectes augmente très fortement.
Alors aujourd'hui, ce n'est plus 173 groupes qui sont dans le viseur de Marlène Schiappa, mais 500. Alors, quand on voit l'état des lieux des nouvelles tendances sectaires, le rapport qui a été remis par l'ami Vilude à la ministre, on voit qu'il y a aussi bien alors, les témoins de Jéhovah, bien sûr, mais aussi des thérapies alternatives, les crudivores.
Des groupes paramilitaires.
Oui, par exemple. En fait, tout ce qu'il y avait déjà dans votre livre, tout ce qui fait la caractéristique de la lutte contre les sectes en France.
Oui, alors ce qu'on voit assez clairement, c'est ce que je disais, c'est cette autonomisation au moins partielle de la question religieuse, puisque les groupes et les personnes qui vont être accusées d'être des sectes sont dans des domaines qui sont finalement des domaines assez divers. Vous avez mentionné les crudivores, il y a le jeûne extrême, il y a le survivalisme, il y a le complotisme aussi qui fait son apparition cette année.
Oui, ça c'est nouveau.
Oui, ça c'est nouveau. C'est aussi que la Miviludes n'avait pas fait de rapport depuis longtemps et que la question du complotisme n'était peut-être pas apparue à l'agenda public depuis quelques années.
Non. Gérald Bronner a été nommé au conseil d'orientation qui vient d'être créé au sein de la Miviludes, ainsi que Cynthia Fleury. Là aussi, ça montre l'intérêt que la ministre porte aux complotistes.
Ça, je ne sais pas, il faudrait leur demander. Mais ce qui est sûr, c'est que cette mission, vous le disiez, qui était peut-être sur un siège éjectable. En tout cas, ça fait longtemps, depuis une décennie, qu'on dit que la Miviludes est une institution qui pourrait être supprimée. En 2019, il y avait eu toute une série d'inquiétudes relatives à sa disparition. On avait une vacance du pouvoir avec pas de président pendant assez longtemps. Et puis là, depuis quelques semaines, il y a un conseil d'orientation scientifique qui vient d'être remis en place avec les personnes que vous mentionnez. Et puis, il y a ce premier rapport qui arrive. Et donc, on voit le retour, la reprise en charge par les pouvoirs publics de la question sectaire, avec cette petite inflexion, en effet, vers la question de croyances considérées comme farfelues.
On a les anti-vaccins qui deviennent, qui tombent dans le giron de la dérive sectaire ou la lutte, les complotistes anti-5G.
Tout à fait, on a toute une série de groupes. Alors ça, c'est pas complètement nouveau, c'est-à-dire que quand on regarde la liste des groupes qui sont accusés à travers le temps, ou des personnes, on a des évolutions, et ces évolutions, elles suivent aussi les tendances de la société et les inquiétudes du moment.
On fait une pause, on se retrouve juste après Étienne Olion. Nous sommes toujours avec Étienne Olion, l'auteur de Raison d'État, histoire de la lutte contre les sectes en France, paru en 2017 à la Découverte. Ça remonte au fond, la lutte contre les sectes en France, ça remonte en 1995. L'époque, vous l'avez dit, 173 sectes avaient été mises à l'index. Comment ça s'était passé? Pourquoi en 1995, on commence à lutter contre les sectes en France? Je le rappelle, personne n'avait jamais fait ça avant et personne n'a fait ça ailleurs.
Oui. Ce qui se passe en 1995, c'est intéressant parce que je disais tout à l'heure, en effet, qu'il y avait une spécificité française, mais elle est assez tardive. Et cette spécificité, elle va naître dans une configuration particulière. On s'intéressait, bien entendu, en France à cette question des sectes, les médias en parlaient, les pouvoirs publics pouvaient avoir un œil sur le sujet, mais jusqu'à 1995, finalement, il n'y avait pas beaucoup d'activités, d'actions qui avaient été prises, et c'était même souvent avec un certain nombre de réticences que les pouvoirs publics s'engageaient là-dedans. Et alors, ce qui va se passer en 1995, c'est qu'on va avoir la rencontre de deux événements dans un laps de temps très limité. Ces deux événements, c'est d'un côté ce fameux rapport parlementaire dont on parlait, qui fait une liste de 173 sectes, qui est déposé au bureau de l'Assemblée nationale après 6 mois de travail, le 21 décembre 1995. Et dans le même temps, mais vraiment au même moment, on va avoir la découverte du massacre des adeptes de l'ordre du Temple solaire, donc dans une clairière du Vercors. Le massacre est découvert, les adeptes sont disparus depuis quelques jours, le massacre est annoncé le 22, on en parle le 23, le 24 on apprend qu'il y a des personnes qui ne sont pas suicidées mais qui ont été abattues, que les corps ont été carbonisés au lance-flammes. Et donc on se retrouve dans une configuration où d'un côté, on a des pouvoirs publics et des députés qui ont écrit un rapport, qui peuvent en parler et qui sont très désireux d'en parler. De l'autre côté, il y a une très forte demande médiatique pour parler du sujet. Donc pendant 10 jours, on ne va faire que parler de la question des sectes. Ce qui fait que les pouvoirs publics, le Premier ministre à l'époque, Alain Juppé, qui était assez réticent à s'engager sur le sujet, vont être obligés de s'engager et vont créer d'abord un observatoire, puis toute une série d'autres institutions.
Vous, quand on lit votre livre, on s'aperçoit que souvent ce sont des sectes, on va les appeler des sectes, à prétention éducative, qui sont dans le collimateur des pouvoirs publics.
Oui, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Dans le livre, j'expliquais que finalement, la question de la bataille pour ou contre la religion, c'était peut-être pas ce qu'il fallait regarder en premier, que ce qui était le plus intéressant, c'est que quand on parle de sectes, et quand on essaie de réguler les sectes en France, on essaie de réguler des personnes ou des groupes qui ont des prétentions dans certains domaines. L'un d'entre eux, c'est la question éducative. Si vous prenez, par exemple, la Soka Gakkai, qui est un groupe bouddhiste, une des raisons pour laquelle on les accuse, ce n'est pas sa religion, c'est aussi parce qu'ils ont la prétention d'éduquer autrement. Si on prend, cette fois-ci, un groupe qui ne se veut pas religieux, les écoles Steiner-Waldorf, ce qu'on met en cause, c'est le fait qu'on scolarise les enfants de manière différente de ce que l'éducation nationale indique en France. Et donc, l'éducation, c'est un des domaines.
Les thérapies alternatives, on le voit bien, là, les crudivores sont dans les nouvelles tendances sectaires, qui ne sont pas nouvelles, en fait. C'est les tendances sectaires telles qu'on les répertorie depuis l'origine, depuis 1995.
Et ça fait assez longtemps. Au début des années 1980, il y a des groupes qui étaient accusés parce qu'ils prônaient le zen macrobiotique. Dans les années 2000, on a tout un tas de groupes qui sont accusés parce qu'ils ont des prétentions thérapeutiques alternatives, c'est-à-dire non conventionnées par la médecine officielle.
Alors là, on a Quanon. Là, c'est vraiment, ce sont des complotistes qui viennent des États-Unis. Ils sont en France aussi, et c'est pour ça qu'on les retrouve dans la liste de Marlène Schiappa.
Oui, alors Quanon, c'est un cas intéressant parce que donc c'est ce groupe, ou je ne sais même pas si on peut parler de groupe, en fait, ce réseau de personnes. Qui pense en effet qu'il y a une espèce de groupe, d'une élite qui dirige le monde et que ces groupes ont été particulièrement actifs aux États-Unis au moment de la polémique autour de l'élection de Donald Trump. Alors QAnon, c'est plus compliqué pour moi à comprendre au niveau de leur inclusion dans cette liste parce que d'une certaine manière, jusqu'à présent, la manière dont on définissait la secte, c'est qu'on se disait il y a un gourou, ou en tout cas des leaders, et il y a de l'emprise, il y a de la manipulation mentale. Du point de vue de QAnon, j'ai plutôt l'impression qu'on est en train d'aller tenter de réguler des croyances que certaines personnes considèrent comme farfelues, qui sont en tout cas en décalage avec les tendances globales. Mais c'est vrai que l'inclusion de QAnon tend presque à montrer encore un petit déplacement de la question de la lutte contre les sectes vers directement les croyances non légitimes.
Et les masculinistes, par exemple, qui rentrent aussi dans les dérives sectaires aujourd'hui?
Oui, voilà. Alors, on trouve aussi cette mention à l'intérieur des notes qui ont été rendues publiques par l'ami Vilu d'hier. Là, c'est vrai que c'est encore, je crois qu'il faut qu'on attende un petit peu. C'est difficile de dire, évidemment, c'est un sujet d'intérêt de la ministre déléguée, mais leur rattachement direct à la question des sectes me paraît moins directement évident.
Il y a les formes de vie communautaire, de toute façon, qui sont dans le viseur en permanence. Là, on le voit avec les survivalistes.
Les formes de vie communautaire, c'est vrai que ça a toujours été une question. Et plus largement, en fait, c'est tout groupe qui aurait prétention à vivre en dehors de la société. Et ça, c'est typiquement une spécificité française. L'idée que, d'une certaine manière, la communauté recentrée sur soi, qui vient s'interposer entre l'individu et l'État est quelque chose de relativement dangereux sur lequel il faut conserver un œil. Dans beaucoup d'autres pays, c'est pas le souci principal.
Étienne Lyon, il y a en France des lois contre l'exercice illégal de la médecine, contre le détournement de mineurs, contre la séquestration, contre la non-assistance à personne en danger, contre le vol, contre l'escroquerie, contre l'abus de faiblesse, contre l'extorsion, contre la mise en danger de la vie d'autrui. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'inventer la lutte contre les dérives sectaires? On pourrait s'en prendre à tous ceux qui sont coupables de ces malversations.
Vous touchez du doigt un point de débat essentiel. Il y a beaucoup de gens qui défendent cette position-là, y compris dans la lutte contre les sectes. La fin du rapport de 1995 des parlementaires disait justement « on n'a pas besoin de modifier le droit ». Ce qu'il faut faire, c'est faire appliquer de manière fine et stricte le droit déjà existant. Ça n'est pas le chemin qui a été suivi ensuite, puisque en 2001, une loi a été votée contre le délit d'abus de faiblesse, mais en gros une loi contre la manipulation mentale, donc pour aller encore plus loin. L'idée des personnes qui s'engagent dans la lutte contre les sectes, c'est de dire que l'appareil juridique n'est pas complètement adapté pour répondre à ces besoins-là. Et ça, c'est un point de débat.
On a l'impression aussi que la lutte contre les sectes ou contre les dérives sectaires, c'est plutôt de gauche. Vous l'avez dit, Alain Juppé, qui était Premier ministre en 1995, était contre. On se souvient que quand Nicolas Sarkozy est arrivé à l'Élysée, Emmanuel Mignon, qui était sa chef de cabinet, avait dit que c'était un non-problème et on en avait déduit que tout ça allait partir à la poubelle. Là, il se trouve que Marlène Schiappa donne son interview dans l'Obs. Est-ce que ça n'est pas catalogué de gauche ?
Alors, historiquement, ça a été très clairement porté un petit peu plus à gauche, au moins au niveau des pouvoirs publics. Du côté des associations, je pense que c'était beaucoup plus divers. Par la suite, c'est une cause qui est devenue très largement une cause universelle. Il suffit de voir, en fait, la composition des commissions parlementaires qui se sont succédées sur ces sujets extrêmement médiatiques. Vous aviez des parlementaires de tous bords qui s'engageaient. Et d'ailleurs, il était presque impossible pour un parlementaire de droite de s'opposer à cette question-là. La loi de 2001 sur la manipulation mentale, elle est votée à l'unanimité, moins une voix, à l'Assemblée nationale. Après, est-ce que c'est une cause plus de gauche ? C'est vrai que ça touche peut-être plus des sensibilités de gauche, ou en tout cas que ça touche peut-être aussi un public, et que c'est des signaux qu'on veut envoyer à une forme de public.
Merci Étienne Ollion. Raison d'État, histoire de la lutte contre les sectes en France. Ça date de 2017, mais c'est toujours aussi actuel et ça vient de sortir à la Découverte. On a rendez-vous maintenant avec Nancy Houston. Bonjour Nancy Houston.
Bonjour Frédéric.
C'est un sacré roman que vous publiez chez Actes Sud, intitulé « Arbre de l'oubli ». Il raconte la tragédie intérieure d'une jeune fille noire américaine née par GPA. Ses parents sont des intellectuels aisés, son père est juif, il est anthropologue, sa mère est une spécialiste des études de genre. Mais sa mère biologique, celle qu'il a portée dans son ventre, est une femme noire, analphabète et pauvre, qu'elle n'a jamais vue et dont elle épouse soudain la cause. N'a-t-elle pas été achetée au fond par des blancs comme ses ancêtres au temps de l'esclavage ?
C'est exactement ça. C'est un résumé excellent parce que je trouve, moi, très difficile de résumer l'histoire. C'était important pour moi que nous suivions les deux parents qui vivent avec cette jeune femme autant qu'elle. Donc, on suit les trois histoires en parallèle, en fait. Mais effectivement, le thème fondamental est celui de l'identité. Et cette jeune femme va presque devenir folle à force de ne pas pouvoir remonter, comprendre d'où vient sa mère biologique et d'où elle vient. Donc.
En fait, nous sommes dans ce livre, hein, parce qu'on suit les trois personnages, mais y compris dans leur passé lointain. Hein, et on voit bien que nous sommes les porteurs des tragédies qui nous ont précédés, des guerres, des sacrifices, des génocides, des viols, qui viennent sans cesse se rappeler à nous, y compris le massacre des animaux, d'ailleurs. Comment s'en détacher ? Dès que l'on en prend conscience, on a l'impression qu'on ne pourra plus jamais en faire abstraction.
Peut-être que la meilleure façon de s'en détacher, c'est d'en prendre connaissance. Je crois que dans nos sociétés occidentales, on a eu très tendance ces 200 dernières années à vouloir être des self-made men et des self-made women et à dire qu'on ne devait rien à personne. Et alors que dans les sociétés traditionnelles, cette idée d'une dette à l'égard des ancêtres et de la nature et le fait de vivre comme des créatures parmi les autres créatures était centrale. Maintenant, si on est dans la dénégation de ça, c'est une chose qui nous rattrape et nous punit peut-être quelque part. C'est peut-être même ce qu'on est en train de vivre, entre autres, avec la pandémie. C'est que nos dénis, notre dénégation de la dépendance et de notre place dans cet univers est en train de nous punir. Et c'est mieux peut-être de reconnaître l'interdépendance et quitte à ensuite vouloir dire « j'ai pas envie de ressembler à ça ».
Mais dans le cas des tragédies qui nous ont précédées, en tout cas dans le cas de votre héroïne, Shaina, elle est la seule de la famille à en ressentir certaines et les traces de l'esclavage sont encore omniprésentes dans l'Amérique du XXIe siècle. Les inégalités sont toujours cruelles et elle a parfois l'impression d'en être victime dans sa propre famille.
C'est-à-dire qu'elle extrapole finalement, elle fait beaucoup de recherches à un moment donné, et je crois que ça arrive souvent avec les enfants adoptés qui viennent d'une autre ethnie que celle de la famille adoptante.
Elle n'est pas adoptée, hein. Son père est bien son père, mais elle est née par GPA.
Elle est adoptée par sa belle-mère, en quelque sorte, par la femme de son père. Il y a quand même adoption, puisque l'autre est officiellement sa mère. Mais dans les adoptions, c'est pareil. De toute façon, l'enfant souvent cherche à en savoir plus, et du coup fait une sorte d'identification presque excessive et devient militant de l'autre cause alors qu'il en sait très peu. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, moi j'ai fini mes études de lycée et fait presque toutes mes études supérieures aux États-Unis avant de venir en France. Et on a tellement peu parlé de l'esclavage, on a tellement peu parlé du fait que le pays avait été construit là-dessus. Une fois qu'on commence à gratter, à se renseigner, il y a de quoi devenir vraiment barjot si on s'identifie à cette chose-là. Il y avait notamment le viol systématique des esclaves femmes par les propriétaires ou leurs copains, etc. Parce qu'une fois qu'on a eu interdit l'importation, la traite négrière, il fallait multiplier la population sur place. Et donc, c'était vraiment une démarche totalement cynique d'agrandir la population des esclaves de cette façon-là sur les plantations. Ça veut dire qu'il y a au moins 1 million de femmes qui ont été violées et qui ont porté dans leur ventre un enfant qui était l'enfant de cette violence, de cette oppression, de cette exploitation éhontée, et qui était déchiré par ça. Shaina ne peut pas s'empêcher d'imaginer que sa mère biologique a vécu quelque chose d'analogue.
Et cette jeune fille, Shaina, il y a deux crimes contre l'humanité dont elle se sent victime et qui cohabitent en elle, en fait, hein, la traite négrière et le génocide des Juifs. Et les deux mémoires en elle se font concurrence.
Elle a ses voix dans la tête, elle entend les ancêtres de son père, parce que son père est un juif du Bronx qui de la génération des enfants de la Shoah, et donc qui sent une sorte de dette, lui, qui pèse très lourd. Il a envie que ses parents sentent que le peuple juif va pouvoir se poursuivre à travers lui. Malheureusement, la seule façon de le faire, c'est celle-là, c'est d'envoyer son sperme à Baltimore. Bon, mais il y aura donc cet
donc
enfant.
Donc d'avoir recours à la GPA avec une femme noire, en fait.
Avec une femme noire. Et elle est donc, vous avez dit tout à l'heure que c'est une noire américaine, mais non, c'est une métisse. Et d'ailleurs, je n'emploie pas le mot de noir, je parle plutôt de marron et beige, parce qu'il n'y a pas de noir et blanc, et c'est vraiment des métaphores trop chargées, donc j'ai décidé de m'en passer complètement.
Vous parlez des marrons, les marrons d'un côté, des beiges de l'autre.
Les marrons et les beiges. Donc c'est une fille de marron, mais c'est aussi une fille de beige, et elle prend ça très au sérieux. Elle entend aussi les voix de ses ancêtres de ce côté-là, et elle entend la voix des ancêtres dispersés qui sont venus depuis l'Afrique et qui ont été complètement, dont les familles ont été fracassées, fragmentées sciemment par les Belges pour qu'on ne puisse pas remonter les lignées, pour qu'il n'y ait pas de solidarité, pour détricoter, défaire tout ce qui était cette solidarité africaine.
Nancy Huston, il y a aussi les hommes et les femmes. Hein, la mère de votre héroïne, sa mère qu'elle refuse de voir comme sa mère adoptive, qui est une féministe, voit les femmes comme les victimes des hommes. Pour elle, une majorité de femmes subissent une forme ou une autre d'abus sexuels au cours de leur enfance. Et chez les grandes artistes, les femmes ayant marqué l'histoire, d'après elle, c'est 100%. Vous partagez cette théorie ?
Il m'a parfois semblé que ce n'était pas loin d'être le cas. Je crois que j'ai été très, très frappée parce que j'ai fait beaucoup d'études sur les biographies d'artistes depuis très longtemps, Journal de la création. Enfin, je me suis penchée sur énormément de biographies de femmes artistes, que ce soit des peintres aussi, des photographes, pas seulement des écrivaines. Et le nombre d'entre elles qui ont subi soit un inceste, soit une agression sexuelle gravissime dans l'enfance est vraiment impressionnant. C'est comme si, en quelque sorte, il fallait vraiment être... il fallait avoir une raison supplémentaire pour une femme pour devenir artiste, faire tous les sacrifices, toutes les coupures qu'il faut pour mener une vie d'artiste. Beaucoup de femmes, peut-être, n'avaient pas besoin de ça pour se sentir exister. Alors que quand on est endommagé dans l'enfance de cette façon-là, la nécessité peut se faire sentir.
Pour Shaina, tout se résume à qui a le droit de nommer et qui ne l'a pas. Chez les Juifs, personne n'a le droit de nommer Dieu. Lui, en revanche, a le droit de nommer Adam. Adam a le droit de nommer les animaux. Les animaux n'ont le droit de nommer personne. Pendant l'esclavage, les Blancs avaient le droit de nommer les Noirs. Et jusqu'à tout récemment, les femmes étaient nommées par les hommes. Elles portaient le nom de leur père à la naissance, puis celui de leur mari.
Et c'est toujours un problème, en fait, parce qu'on a beau dire ben, « je m'appelle deux choses », on ajoute le nom de son père au nom de son mari, mais en fait, quelque part, les femmes n'ont pas de nom. Je ne sais pas si on trouvera une solution à ce problème-là, mais ce n'est pas par hasard. On les en a privées.
Arbre de l'oubli, ce titre, c'est quoi l'arbre de l'oubli ?
Je suis allée pas mal de fois en Afrique subsaharienne ces dernières années et deux fois à Ouida, au Bénin. Et c'est un arbre qui a été remplacé, d'ailleurs l'année de naissance de Shaina en 1992, par un monument. Mais on raconte que dans cette ville d'Ouida, qui a vu partir au moins 1 million de personnes réduites en esclavage entre le 17e et le 19e siècle, les gens, avant de partir, avant de monter dans les bateaux, déposer leurs souvenirs d'Afrique dans les feuilles et les branches de cet arbre avec l'idée que ça serait trop douloureux de les porter là-bas, de garder ces souvenirs. Tout le monde pensait qu'ils allaient revenir un jour et reprendre leurs souvenirs. Et donc, ils les confiaient à l'arbre avant de s'en aller.
Et ils ne sont jamais revenus. Arbre de l'oubli, c'est le titre de votre nouveau roman, Nancy Houston, qui sort aux éditions Actes Sud. Merci d'être venu en parler sur Europe 1.
Merci à vous, Frédéric. Europe 1.
C'est arrivé, cette semaine est terminée. On se retrouve demain à 9h avec Georges Ghosn et sa femme Carole qui sortent un livre mercredi prochain. En attendant, vous avez rendez-vous avec Sébastien Guyot et les Grandes Voix d'Europe 1. Quel est le programme, Sébastien ?
Eh bien, Frédéric, nous verrons si la stratégie du cas par cas du gouvernement peut tenir. Nous parlerons de la tentative d'OPA de Marine Le Pen sur la droite. Et puis, nous tenterons de comprendre quelle est la réalité des phénomènes de RICS en France. Est-ce que c'est un phénomène médiatique ou une réalité inquiétante ?
Bonne émission, Sébastien.
Merci.